le géographe Philippe Pelletier pour présenter son dernier ouvrage intitulé « De Hiroshima à Fukushima, guerre nucléaire et politique au Japon ». Hiroshima, Fukushima, deux lieux intimement marqués par le nucléaire, deux lieux emblématiques aussi de la relation singulière du Japon au nucléaire, qu'il soit militaire ou civil. Si les deux éléments, la bombe de 1945, l'accident de 2011, sont connus de tous, ils ont rarement été rapprochés dans une même analyse. C'est ce que propose ici Philippe Pelletier dans une perspective géohistorique originale. S'appuyant sur de nombreuses sources japonaises, l'auteur retrace les dynamiques à l'œuvre au Japon depuis des années. Depuis les années 1930, en relation avec le reste du monde. Il démontre ainsi que c'est bien à la persistance d'un village nucléaire où se côtoient depuis près d'un siècle les mêmes hommes politiques, industriels, scientifiques et militaires que l'on doit le développement d'un électronucléaire civil forcément lié à la question de la guerre et du nucléaire militaire. Bonne écoute.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'Alice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je le laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de la rage dedans. Nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, nous allons au Japon et je reçois un spécialiste du Japon et du nucléaire, Philippe Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Bien. Alors, je te reçois pour ton ouvrage excellent de Hiroshima à Fukushima, guerre nucléaire et politique au Japon, qui est édité chez les presses universitaires de Lyon dans la catégorie...
La collection Espace Critique.
Voilà, tout à fait. Alors, je voudrais que tu te présentes à mes auditeurs et après je vais lire la quatrième de couverture qui va nous plonger tout de suite dans le propos de ton ouvrage.
Bah, je suis géographe et sur une tendance Élysée reclus, on va dire ça comme ça, mais pas que.
D'accord. Mais on ne dit pas que tu es professeur émérite de géographie à l'université Lyon.
Si, on peut le dire, ouais. Effectivement, j'étais enseignant-chercheur, je le suis toujours, à faire des recherches. Et j'ai vécu plus de 7 ans au Japon, ce qui fait que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre.
D'accord. Alors, Hiroshima et Fukushima sont deux lieux intimement marqués par le nucléaire. Deux lieux emblématiques aussi de la relation singulière du Japon au nucléaire, qu'il soit militaire ou civil. Si les deux événements, la bombe de 1945, l'accident de 2011, sont connus de tous, ils ont rarement été rapprochés dans une même analyse. C'est ce que propose ici Philippe Pelletier dans une perspective géo-historique originale. S'appuyant sur de nombreuses sources japonaises, l'auteur retrace les dynamiques à l'œuvre au Japon depuis les années 1930 en relation avec les États-Unis. Il démontre ainsi que c'est bien à la persistance d'un village nucléaire où se côtoient depuis près d'un siècle les mêmes cercles politiques, industriels, scientifiques et militaires que l'on doit le développement d'un électro-nucléaire civil, forcément lié à la question de la guerre et du nucléaire militaire. Ça, c'est le quatrième de couverture de ton ouvrage qui m'a donné envie de le lire. Et ensuite, tu as gentiment accepté de venir à notre antenne. Alors, l'Espace Critique, c'est une collection dirigée par toi, qui dit ceci. Les mouvements sociaux sont caractérisés par l'espace qu'ils occupent et ce qui les conditionne en retour. Les lieux étant construits, ils instaurent une relation entre deux logiques, historique et géographique. Là, on voit le professeur de géographie. Ils sont critiques par la cristallisation d'intérêts divergents qui s'y rencontrent. Ils deviennent objets critiques par le nécessaire recul de la connaissance. Partant de ces postulats, la collection Espace Critique publie des travaux éclairant les problématiques spatiales, territoriales et environnementales, soit théoriques, soit de terrain. Elle entend renouveler la démarche géographique de concert avec d'autres disciplines, anthropologie, histoire, sciences politiques, économie, écologie. Elle insiste sur les enjeux, les acteurs, les actions engagées dans la réappropriation spatiale dans l'ici et le maintenant. Alors, le Japon. Tu dis le terme de village nucléaire. Est-ce que tu pourrais le préciser à nos auditeurs ?
Oui, c'est une expression japonaise qui désigne en gros le lobby pro-nucléaire au Japon, constitué déjà des savants physiciens nucléaires, des entreprises privées d'électricité qui travaillent dans le nucléaire, et puis tous ceux qui gravitent dans la technostructure gouvernementale et technicienne, qui en fait se cooptent les uns à les autres, c'est-à-dire que souvent ceux qui s'occupent de la sécurité nucléaire ont autrefois travaillé pour les entreprises d'électricité nucléaire. Donc il y a une consanguinité extrêmement forte dans le lobby pro-nucléaire au Japon.
Alors, à un moment donné dans ton livre, tu dis ceci, page 46, très précisément, je retrouve mes notes. Tu dis, le sort du Japon est scellé, celui du monde entier aussi, en parlant d'Hiroshima et de Nagasaki. Est-ce que tu veux préciser ton propos ?
La décision de lâcher la bombe atomique d'abord sur Hiroshima, donc qui a été prise par le président américain Harry Truman, elle est quand même significative de beaucoup de choses. Parce que au départ, la bombe atomique et le fameux projet Manhattan dont parlent notamment Jean-Marc Royer et d'autres, ce projet-là, il était destiné à abattre le nazisme. Mmh. Bon, le 8 mai 1945, la guerre est finie entre le camp occidental et l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Donc logiquement, la bombe avait plus d'intérêt en fonction de la prémisse du point de départ. Or, à la fois les militaires, les savants, mais aussi certains dirigeants politiques se sont dit non, on peut pas abandonner quand même cette idée de bombe atomique, d'armement atomique. Il faut qu'on en fasse quelque chose, surtout dans la perspective d'une future guerre froide, donc un renversement d'alliance, puisque l'Union soviétique était alliée avec les États-Unis contre le nazisme, mais que déjà donc se profilait ce qui va marquer la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la confrontation Est-Ouest, enfin confrontation officielle en tous les cas. Il fallait montrer les muscles et il fallait les montrer concrètement, et du coup, ce qui a fait que le projet Manhattan a été accompli jusqu'au bout. Avec un moment important, c'est-à-dire que la bataille d'Okinawa qui a lieu en gros avril-mai, qui était absolument sanglante sur les îles au sud du Japon, après cette bataille gagnée par l'armée américaine, eh bien les combats ont cessé. Donc en fait, il y a eu une espèce de répit pour la société japonaise et les dirigeants japonais, mais c'est pendant ce répit, et aussi pour garder des cibles nucléaires, qu'en fait, il y a eu très peu de bombardements sur les grandes villes au Japon. Donc l'armée américaine se préparait, et la décision a été prise par Truman de façon extrêmement dramatique, puisque en fait tout le monde savait que le Japon était à bout.
Oui.
Les services de renseignement savaient aussi que le gouvernement japonais lui-même savait que les carottes étaient cuites, si je puis dire, qu'ils allaient perdre la guerre et que par conséquent une négociation était possible.
Oui.
Voilà. Et là, le problème, c'est la reddition avec quelles conditions ? Et les experts américains savaient aussi pertinemment que le point nodal de la reddition du Japon et du gouvernement japonais, c'était l'empereur. Quelque part, il fallait protéger l'empereur, notamment les plus ouverts parmi les dirigeants japonais étaient prêts à accepter l'hypothèse d'une monarchie constitutionnelle. C'est d'ailleurs le paradoxe, c'est cette monarchie constitutionnelle qui existe de nos jours.
Tout à fait.
Qui a été de fait acceptée par les gouvernements américains, et qui pourtant ont décidé de sursoir à cette hypothèse-là et de demander une reddition inconditionnelle.
Voilà.
En tablant sur le fait que les États-Unis possédaient désormais une arme d'une puissance effroyable, sauf que les dirigeants américains, qui avaient gardé quand même le secret sur le projet Manhattan, n'ont pas précisé la nature de cette arme. Les espions japonais savaient à peu près la teneur du projet Manhattan, mais pas jusqu'au bout. Et du coup, les informations qui sont remontées au plus haut niveau ont probablement été minimisées sur l'ampleur de cette arme-là. Ce qui fait que ça, c'est une hypothèse, c'est que en fait le gouvernement japonais n'a pas vraiment perçu la
menace.
Ouais, la menace, la réalité de cette menace-là. Et donc du coup, il y a eu la fameuse déclaration de Potsdam sur la demande de reddition inconditionnelle du Japon. Et pour la petite histoire, mais qui est devenue une grande, en fait, le président américain, quand il a fait le trajet des États-Unis à Potsdam, donc à Berlin en Allemagne, il l'a fait en bateau. Et donc pendant les deux semaines et plus, en fait, son secrétaire d'État, notamment chargé des questions militaires, l'a poussé à abandonner l'idée d'une monarchie constitutionnelle ou tout du moins une phrase allant dans ce sens-là pour atténuer l'inconditionnalité. Donc voilà. De fait, quand ils ont pris cette décision-là, quand Truman a pris la décision, entre-temps, il a appris que le premier essai atomique avait réussi à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique. Il a dit « Ok, on lâche la bombe ».
Voilà. Alors, donc, on
du coup, le sort du Japon est scellé, et le monde avec, puisqu'on rentre dans l'ère nucléaire.
On reste dans... Alors, Hiroshima, le 6 août 1945, Nagasaki, le 9 août 1945. En fait, c'était Kyoto qui était destiné à être bombardée, mais comme c'était l'ancienne capitale impériale, Nagasaki a été choisie à la place de Kyoto.
Oui, c'est effectivement ce qui s'est passé avec l'espèce de hasard paradoxal par rapport à... Enfin, c'est pas vraiment un hasard, c'est une histoire paradoxale pour Nagasaki. C'est que Nagasaki a été historiquement l'une des grandes portes d'entrée, sinon la grande porte d'entrée sur le Japon en provenance de la Chine ou en provenance de l'Occident. Que c'est notamment dans cette région que sont entrés les premiers missionnaires au XVIe siècle, toute la tentative d'évangélisation du Japon qui a failli marcher, et puis qui finalement, le christianisme a été banni du Japon par le shogunat. Mais quand le christianisme a été réautorisé à partir de la moitié du XIXe siècle, en fait, Nagasaki est devenue la plaque tournante, le pôle principal de la réévangélisation du Japon, avec pendant très longtemps la plus grande église du Japon. Mmh. Et donc le paradoxe, c'est que la bombe atomique a frappé précisément le quartier où se trouvait, l'église catholique. Enfin, donc il y a une espèce de... C'est comme si l'Occident chrétien s'était vengé d'avoir été chassé du Japon 3 siècles auparavant.
Voilà. Alors,
4 siècles.
La catastrophe du Japon, en fait, tu le dis dans ton livre, ça a été pour le Japon d'entrer en guerre contre les États-Unis. Il y avait un organisme...
L'Institut de la guerre totale.
Voilà, qui avait déjà alerté les autorités en disant que entrer en guerre contre les États-Unis, ça aurait été une catastrophe pour le pays et ça n'a pas été pris en compte.
Alors c'est un épisode effectivement extrêmement important et intéressant que je pense avoir mis à jour en langue française, à ma connaissance. Parce que, en fait, notamment la réflexion, elle est partie de Fukushima. Mais pourquoi les dirigeants japonais ont accepté d'installer des centrales nucléaires dans un environnement physique aussi fragile, séisme, tsunami, etc. Donc quelque part, les dirigeants, sinon les Japonais eux-mêmes, sont un peu fous, sont un peu suicidaires. Et du coup, on pense aussi à l'entrée en guerre contre les États-Unis. Décidément, ils font n'importe quoi. Et donc, il y a une forme presque d'essentialisation des Japonais, voire une forme de racisme. C'est-à-dire, oui. Décidément, ces jaunes, ils font pas le poids, ils sont un peu stupides.
Pas du tout
ce qui s'est passé. Et c'est ce que... Parce que c'est une question qu'effectivement, on dit, mais pourquoi ils sont partis en guerre contre les États-Unis, le rapport de force étant tellement disproportionné qu'effectivement, ils couraient à la catastrophe. Ce qui s'est passé, c'est que le premier ministre dans les années 1940, Konoe Fumimaro, qui est par ailleurs membre de la maison impériale, donc c'est un aristocrate, très haut niveau, quelqu'un qui connaît bien le monde anglo-américain, le monde occidental, qui était plutôt d'ailleurs américanophile, Konoe voulait pas la guerre avec les États-Unis. Par contre, il fallait pas toucher à l'impérialisme japonais en Asie, notamment en Chine. Donc pour lui, il y avait une voie de négociation possible. Mais pour savoir et convaincre les militaires qui étaient ceux-là jusqu'au boutiste et va-t'en guerre, comme tout bon militaire
qui se respecte,
s'est dit bon ben on va créer cet institut de la guerre totale qui a bossé pendant plusieurs mois et qui a rendu ce fameux rapport que je mets à jour. Qui arrive à 3 conclusions. La première, c'est que l'armée japonaise va triompher très très rapidement dans toute l'Asie du Sud-Est. Deuxième phase, il va y avoir un essoufflement, la coupure des voies de communication, d'approvisionnement en pétrole et tout, donc les choses vont commencer à mal tourner pour le Japon. Et troisièmement, l'Union soviétique va rentrer en guerre contre le Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ces grandes victoires militaires après Pearl Harbor, la chute de Hong Kong, la chute de Singapour. Et dans l'idée de certains dirigeants japonais, c'est là qu'il fallait négocier avec l'Occident. Mais il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas marché, parce que notamment Tojo, l'armée de terre, plus l'armée de terre que la marine d'ailleurs, était complètement...
Omnubilée,
euphorique par les victoires militaires, avec toute la propagande par derrière. On dit non, on continue. Mm-hmm. Donc là, c'est un rendez-vous raté. Ensuite, effectivement, la deuxième hypothèse s'est révélée juste. Essoufflement de l'armée japonaise, coupure des voies de communication, etc. Et puis, l'entrée en guerre de l'Union soviétique, c'est ce qui s'est finalement passé, alors qu'il y avait un traité de non-agression entre l'Union soviétique et le Japon, copié un peu sur le pacte germano-soviétique d'août 1939. Donc, il y avait cette idée de la part du gouvernement japonais que, du côté de l'Union soviétique, on est a priori
stable,
tranquille, mais l'IGT, l'Institut de la guerre totale avait quand même prévu cette hypothèse-là, qui s'est avérée, et ça c'est très important aussi, entre les deux bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. C'est-à-dire que l'armée rouge est rentrée en guerre, notamment en Mandchourie, qui était le fleuron de la colonisation et l'impérialisme japonais, parce que Staline a respecté sa promesse faite à Yalta, qu'il allait rentrer en guerre 30 jours après la reddition, 3 mois après, pardon, la reddition de l'Allemagne nazie. Donc en fait, Staline respecte sa promesse. Le pacte entre l'Union soviétique et le Japon est dénoncé, mais unilatéralement. Et ce pacte-là prévoyait que pendant un an, il restait valable. Donc, quelque part, le gouvernement japonais s'est dit, bon, la menace se précise, mais peut-être qu'on va négocier avec Staline, puisque les ennemis de nos ennemis, donc des États-Unis, sont potentiellement nos amis. Ce qui n'était pas faux comme raisonnement. Hein, ils tablaient déjà peut-être sur la future guerre froide.
Oui.
Donc, et bon, leur calcul s'est avéré faux. Mais surtout, ce que je pense révéler dans mon livre aussi, et là je m'appuie sur les travaux d'un historien japonais, Hasegawa, qui possède non seulement la langue japonaise, mais aussi la langue russe et la langue anglaise, et qui a travaillé sur les archives, qui montre qu'en réalité, le bombardement de Hiroshima n'a pas eu beaucoup d'impact sur les dirigeants japonais. C'est qui n'est pas étonnant, bon, c'est une super bombe, mais c'est jamais que des civils qui ont été tués. Donc toujours pareil, le mépris vis-à-vis du peuple, même si on le glorifie comme soldat par ailleurs. Et c'est l'entrée en guerre de l'armée rouge qui a pesé dans la décision de la reddition. Et Nagasaki est arrivé après, qui a finalement donné le coup fatal.
Alors, ce qu'il y a dans ton livre, cette découverte, ça, je l'ai apprise, et vraiment, j'ai été stupéfaite. Mais surtout, il y a une autre découverte que j'ai apprise. Moi, je savais que dans la guerre en Asie, il y avait eu la guerre bactériologique avec l'unité
731.
Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, le Japon avait le choix entre le choix nucléaire et le choix bactériologique, et qu'il a fait le choix bactériologique. Donc ça veut dire, et tu le dis bien dans ton livre, que le Japon, qui passe pour une victime de Hiroshima et Nagasaki, en fait, était prêt, lui aussi, à commettre l'impensable.
Absolument. Bon, la guerre, effectivement, ils ont fait le choix de la guerre bactériologique, ils l'ont privilégié, sans pour autant abandonner le choix nucléaire. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, il y a eu des tentatives pour que le Japon se dote de l'arme nucléaire.
Voilà.
Donc ça veut dire que d'un point de vue philosophique, ontologique, il n'y avait pas de refus d'une arme de destruction massive, quoi.
Non.
Et Hiroshima et Nagasaki ont effacé ça.
Voilà.
Donc, et clairement manipulé par les dirigeants pour transformer effectivement les faiseurs de victimes japonais de l'impérialisme japonais, notamment en Asie, en victimes de l'arme atomique, de l'arme nucléaire, et en particulier lâchée par l'Occident qui était l'ennemi pendant la guerre. Donc il y a eu cette espèce de ce que j'appelle une prise de judo nucléaire du coup redore le blason des dirigeants japonais.
Et on oublie les crimes de guerre, notamment le sac de Nankin, la Mandchourie, tout ce qui s'est passé. Et la Chine, de son côté, n'oublie pas ce que les Japonais ont fait au peuple chinois.
Absolument. C'est à la fois soit un oubli, soit une minimisation. Et de nos jours encore. Hein,
tout à fait.
Parce que la première ministre, donc une femme, comme les femmes arrivent au pouvoir, faut pas l'oublier, pouvoir des gouvernements, des États. Donc Takaichi Sonoe, elle est sur la position de relativiser le massacre de Nankin et cette position.
Des femmes de réconfort et tout ça.
Tout ça. Et puis bon, si on a fait la guerre en Chine, c'est pas vraiment de notre faute. C'est à cause de l'impérialisme occidental. Enfin bon, voilà, c'est une interprétation de l'histoire.
Une réécriture de l'histoire sanglante.
Qui est classique de la droite et de l'extrême droite japonaise. Mais voilà. Sauf que c'est une ligne dure là avec Takaichi là.
D'accord. Alors, l'empereur est une figure centrale dans ton livre. J'ai découvert que à partir du moment où une grande partie des hommes politiques ont voulu qu'il soit déclaré irresponsable de tout ce qui est arrivé, alors que tout était fait en son nom, mais quelque part ça a préparé le terrain à rendre irresponsable tout ce qui arrive, notamment Fukushima. Et ça, c'est démontré de façon éblouissante. Vraiment, on sort de ton livre j'en dis pas plus, parce qu'il faut donner envie aux gens de lire, mais je voudrais qu'on revienne sur cette irresponsabilité, sur cette figure de l'empereur.
Alors c'est difficile à comprendre, parce que en réalité, dans l'histoire et la culture japonaise, l'empereur c'est d'abord un chaman, un grand chaman, correspondant au Shinto. Après, il y a eu des éléments bouddhistes et confucéens qui se sont ajoutés, mais au départ, c'est un grand prêtre. Mm-hmm. C'est pas l'équivalent du pape ni du Dalai Lama, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, avec historiquement une faible importance politique dans le sens de gouvernance directe.
D'accord.
En revanche, il y a une légitimité, c'est-à-dire que pour que les gouvernants, et en particulier les shoguns par exemple, puissent vraiment diriger, il fallait l'appui, la bénédiction, si je puis dire, de l'empereur. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la révolution Meiji, donc à partir de 1868, l'élite japonaise, ayant considéré que le shogunat ne faisait plus suffisamment face à la menace occidentale, notamment à la guerre de l'opium, vous voyez ce qui se passait juste en face, en Chine.
Ouais.
Donc ils ont pris peur, ils ont dit on veut pas de ça, le shogun est trop faible, donc il faut un nouveau régime, donc il faut restaurer l'empereur, mais comprenant que l'impérialisme occidental était plus fort, il fallait limiter dans ses armes, dans sa gouvernance. Donc changer le statut de l'empereur, c'est-à-dire à l'ancien grand prêtre, ajouter finalement le rôle d'un monarque, mais à l'occidental, mais d'un monarque fort, genre Kaiser, quelque chose de cet ordre-là.
Mais irresponsable.
Mais, alors, c'est là où c'est difficile, c'est que la nouvelle constitution de 1889 fait de l'empereur le grand chef, le responsable des armées, comme le président de la République en France actuellement.
Tout à fait.
Sauf que l'empereur, il c'est pas un militaire, techniquement, donc c'est pas lui vraiment qui organise le système militaire. Donc du coup, il y a eu une espèce de jeu que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, mais qui décide vraiment ?
Voilà.
Qui agit ? Et dans l'action, à chaque fois, en fait, il faut l'aval de l'empereur. Donc il devient le centre de tous les complots, de toutes les négociations.
Des assassinats.
Des assassinats. Donc d'une certaine façon, il est à la fois irresponsable et responsable. Ce qui va permettre le fait que après la défaite de 45, il va passer à travers les gouttes.
Ouais, et jusqu'à nos jours.
Jusqu'à nos jours.
Bien.
Bon, c'est une question taboue au Japon, hein, faut bien le dire.
Oui, tout à fait. Je suis contente que tu l'abordes. Alors, nous allons faire une pause, Philippe, et nous allons revenir sur la catastrophe de Fukushima en particulier. Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Philippe Pelletier pour son livre de Hiroshima à Fukushima, guerre nucléaire et politique au Japon. L'irresponsabilité de l'empereur et de l'oligarchie politique a fait que, comme tu le dis dans ton livre, le tour de force que la nation japonaise, qui a été victime de l'Holocauste nucléaire, est devenue la plus nucléarisée au monde. C'est un tour de force et ça, tu le démontres brillamment. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de ce tour de force?
Oui, tour de force, ce que j'appelle prise de judo nucléaire, évidemment.
Voilà.
petite référence culturelle, parce que oui, ça a été un traumatisme, évidemment, Hiroshima et Nagasaki, une fois que l'horreur a été découverte. Alors, bon, il y a eu le secret militaire, que j'explique dans le livre, ça a mis quand même plusieurs mois avant de comprendre vraiment l'ampleur des dégâts et surtout l'ampleur de la radioactivité. Du coup, un traumatisme au sein du peuple japonais qui s'appelle Genpatsu Allergy en japonais, c'est-à-dire l'allergie au nucléaire.
Voilà.
Donc le paradoxe, est effectivement, encore un, décidément, c'est que un programme électronucléaire de construction de centrales nucléaires a été décidé en décembre 1955 par la Diète, par le Parlement japonais. Donc, 10 ans après Hiroshima et Nagasaki, on se demande, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu toute une propagande de la part de, en fait, des anciens dirigeants qui sont plus ou moins restés aux manettes ou qui ont été blanchis, de la part surtout aussi du gouvernement américain et des entreprises américaines, de dire, avec le discours d'Eisenhower aux Nations Unies en 1953, le fameux discours Atoms for Peace,
voilà,
que on pouvait transformer la mauvaise énergie nucléaire militaire en une bonne énergie nucléaire civile, donc construire des centrales. Mais il fallait convaincre le peuple japonais.
Mm-hmm.
Et là, il y a eu toute une propagande qui a été faite, qui a convaincu finalement une grande partie de l'opinion publique pour dire que les essais nucléaires militaires, c'est pas bien, mais par contre, les centrales, elles sont sûres, et puis ça va apporter de l'énergie bon marché, voire gratuite. Hein, je cite même un des experts américains qui explique qu'en gros, il y en aura tellement d'énergie que ça sera pratiquement gratuit pour tout le monde.
Oui, on peut le croire. Non, mais surtout, il y a au centre de ce jeu, il y a une compagnie, TEPCO.
Oui.
Alors, TEPCO, tu dis très précisément, je retrouve la phrase, TEPCO, c'est le spécialiste des dossiers calamiteux. Et tu le démontres brillamment dans ton livre. TEPCO, c'est un cauchemar pour tous ceux qui luttent contre l'atome au Japon, mais dans le monde entier. Quand on dit TEPCO, on se fige,
ouais.
si je puis me permettre.
Oui, alors il faut comprendre aussi que l'un des aspects de l'histoire est encore un paradoxe, décidément, c'est que le tenno-militarisme, on va dire le fascisme japonais, ça colle pas vraiment, mais avait nationalisé l'électricité donc à la fin des années 30 au Japon, mais que sous l'impulsion de l'occupation américaine, il y a eu, alors pas une dénationalisation au sens strict, ou plus exactement, pas une privatisation au sens strict, mais une libéralisation sous la forme de régionalisation. C'est-à-dire que en fait, les entreprises privées avaient le monopole chacune sur une région du Japon. Donc, en fait, c'est une privatisation
régionale.
Et TEPCO était avec Tokyo, autour de Tokyo, dans la région de Tokyo, était vu le nombre d'habitants qui devait fournir donc beaucoup d'électricité, est devenue une grosse entreprise. Mais proche du pouvoir sans arrêt, et surtout, effectivement, il y a eu beaucoup d'incidents. Je donne plusieurs exemples, et puis il y a les ouvrages de Cécile Hassanou-Mabrisse ou encore de Thierry Ribaud sur la question, pour montrer qu'effectivement, c'était une gestion catastrophique. C'est-à-dire que, un exemple qui était bien connu dans une centrale qui se trouve du côté de la mer du Japon, les pompiers, c'était les pompiers du village. C'était même pas une unité spécialisée. Il y avait un problème d'accès au lance incendie. Enfin, il y avait tout un tas de négligences qu'on va retrouver d'ailleurs à Fukushima, puisque TEPCO, en fait, a baissé
le
niveau de la digue qui devait protéger contre des grands tsunamis. Et que...
Alors qu'il y avait un rapport qui demandait à ce que la digue soit élevée quelques jours avant le drame.
Absolument, absolument.
Donc quelque part, il y avait des gens qui alertaient, comme le bureau
pour l'IGT,
et ça n'a pas été écouté.
Ça n'a pas été écouté parce que c'est là, bah, non, les Japonais ne sont pas suicidaires, ou tout du moins, certains sont alertes sur les risques. Alors, ça peut être des deux côtés, hein, côté du pouvoir, mais aussi côté de la société civile, et ça a été le cas pour l'électronucléaire, pour dire que là, vraiment, il y avait des gros risques. Mais pareil, je me suis appuyé sur la thèse de Tino Bruno, qui a fait un gros travail de relecture de la presse japonaise à l'époque, notamment, où a été donc lancé le programme à partir de 1955, où des experts disaient non, mais il y a pas de problème, enfin tout ira bien. Et même après Tchernobyl en 1986.
Oui, c'est soviétique, donc ce sont des incompétents. C'est ça. Nous, on est japonais, on est bien meilleurs.
Oui, la technologie. Moi, j'étais au Japon à ce moment-là, donc j'ai entendu. C'était assez hallucinant parce que, bah oui, c'est des rouges, c'est décadent. Et, par contre, nous, on est super meilleurs, on a la technique, on est discipliné, ça n'arrivera jamais chez nous. Un patatras.
Eh oui. Alors, tu précises bien les chiffres de Fukushima. Donc, ça fait froid dans le dos. Donc, tout le monde les connaît, bien sûr. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que. On revient sur TEPCO. TEPCO est aussi un annonceur publicitaire. Donc, il y a eu le rôle des médias. Tu l'as un peu évoqué. Les médias ont endormi la population. Alors que, quand il y a eu l'affaire du dragon malchanceux...
Le dragon chanceux, en réalité, chanceux. Mais malchanceux, qui a été irradié par l'essai nucléaire de Bikini en 1954.
Voilà. Les femmes et les civils ont commencé à se dire, attention, ça veut... tout le monde peut être irradié en dehors de Fukushima, en dehors de Nagasaki et de Hiroshima. Donc il y a eu une campagne, je dirais, civile, et il y a eu une hausse des abstentions aux élections législatives. Et ça, tu le montres bien dans ton ouvrage. Et l'abstention continue encore à l'heure actuelle. Et ça, c'est quelque chose que les médias occidentaux n'ont pas relevé lors de l'élection qui a amené au pouvoir l'actuelle première ministre.
Alors, effectivement, il y a eu une grosse propagande pendant plusieurs années. Et là aussi, il faut le souligner, le rôle de la J-pop, la Japanese pop culture qui fait fureur de nos jours... l'une des figures, l'une des figures les plus connues des mangas, des mangaka, des animés, etc., c'est Astro Boy.
Oui, du studio Ghibli, le fondateur du studio Ghibli. Il y a une exposition à la Maison du Japon actuellement pour lui rendre hommage.
Eh ben, Astro Boy, c'est en réalité, son vrai nom en japonais, c'est Tetsuan Atomo, l'atome courageux.
Oui.
Donc en fait, il est animé par une pile
atomique.
Et en fait, c'est ce petit garçon atomisé, j'allais dire, qui va défendre le bien, la démocratie, etc. Puis il y a Doraemon, alors même Godzilla, qui au début était le grand méchant réveillé par un accident nucléaire, a été ensuite euphémisé. Même le film, je donne des exemples, il y a eu des coupures parce que la version américaine et la version française, c'est pas du tout la version originale japonaise. Donc les Occidentaux sont un peu épargnés dans l'histoire. Il y a eu toute une propagande très très forte, même Walt Disney, ça j'avais découvert, hein. Our Friend the Atom, pardon.
Voilà.
Notre ami l'atome, c'était un documentaire réalisé par Walt Disney, qu'on peut trouver facilement sur la toile.
Oui, tout à fait.
Donc grosse propagande à la fois du côté de l'Amérique, et puis du côté du gouvernement japonais, et puis de la J-pop, la première chaîne de télévision privée est détenue par le premier ministre chargé du nucléaire au Japon, Shoriki Matsutaro. Donc voilà, c'est la déferlante. Donc du coup, effectivement, il y a eu un endormissement du peuple japonais, mais, et c'est là que c'est important, il faut le souligner, cet endormissement, il s'est fait au prix d'un accord qui s'est retrouvé un accord finalement foireux, si je puis dire. C'est-à-dire que vous prenez le nucléaire civil, mais vous lâchez le nucléaire militaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est cette posture qui est plus ou moins la posture officielle du Japon, du renoncement aux armes nucléaires et de se mettre sous le parapluie nucléaire américain, mais pas plus de ce côté-là. Et c'est pour ça que la gauche est devenue pronucléaire sur cette base-là, sur la promesse du pacifisme.
Oui, tout à fait.
Mais en réalité, cette promesse, c'était une hypocrisie, puisque la fameuse politique des trois noms, un non à la production d'armes atomiques, non à l'entreposage et non au passage des armes atomiques. En fait, en 1968, entre le gouvernement japonais et le gouvernement américain, c'était Nixon à l'époque, il y a eu une clause secrète qu'on a découvert beaucoup plus tard qui acceptait l'entrepôt des armes, des ogives nucléaires
à Okinawa.
Donc c'était l'hypocrisie, c'était toujours pareil, le double jeu.
Tout à fait.
Donc qui a endormi le peuple japonais, mais pas complètement.
Pas complètement. Et tu montres bien dans ton livre qu'il y a une partie des militaires qui veulent l'arme atomique.
Et pas que des militaires, en fait c'est des dirigeants japonais marqués très à droite et à l'extrême droite qui dès les années 1960 ont laissé entendre que finalement pour que le Japon puisse se défendre, il faudrait l'arme atomique, voilà. Mais que les générations sont pas encore prêtes, sous-entendu elles le seront un jour et ce jour est en train de se rapprocher.
Voilà. Et ça fait froid dans le dos.
Ah, même moi, c'est un peu comme la section 1631, j'ai été assez abasourdi par tout ce que j'ai découvert, finalement accessible par des sources soit japonaises, soit en anglais, que effectivement régulièrement des premiers ministres, ça on le savait, mais beaucoup de ministres et de plus en plus d'hommes politiques, ça s'accélère à partir des années 90, 2000, veulent l'arme atomique. C'est pour ça que le gouvernement japonais n'a pas signé le traité de bannissement des armes atomiques qui a été donc adopté aux Nations Unies dans les années 2017. À la grande surprise des pays, parce que le Japon a cette image de pays pacifiste, l'article 9 de la Constitution qui interdit le droit de belligérance, Nagasaki Hiroshima, donc beaucoup de pays de responsables disaient ben non, le Japon, l'État japonais est de notre côté, il va nous soutenir, ben non, pas du tout.
Ouais. Tu montres bien l'implication des physiciens de l'atome qui veulent tirer profit positif de l'énergie nucléaire, mais surtout avec la course à la multiplication des centrales, tu montres que Fukushima reste un concentré des erreurs et des manquements de TEPCO. Donc ça peut être un concentré des erreurs dans le monde. Parce qu'il n'y a pas qu'à Fukushima que les normes ne sont pas aux normes, si je puis me permettre.
Alors il y a cet aspect-là qui est quand même relativement connu, on va dire surtout après les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl. Mais ce qui est peut-être beaucoup plus inquiétant, c'est depuis plusieurs mois le relâchement des eaux irradiées
dans
l'océan Pacifique. C'est-à-dire que, en fait, les réacteurs sont toujours en fusion à Fukushima, donc on arrose. On récupère l'eau, on la stocke, mais là, les cuves sont en train de déborder littéralement. Et donc, le gouvernement japonais a décidé de rejeter ces eaux irradiées dans l'océan Pacifique, avec l'accord de conseiller d'Orano et du gouvernement français, soit dit en passant.
Oui.
Et cette radioactivité, elle va contaminer la chaîne alimentaire dans des proportions qu'on ignore encore.
Tout à fait. Ouais,
alors, j'ai essayé de chercher de ce côté-là, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors, je suis pas spécialiste en épidémiologie nucléaire, mais quand même, quoi, c'est un raisonnement qu'on peut faire sur la chaîne alimentaire. Si on pense à d'autres produits connus comme le mercure, avec l'uranium, le césium et toutes ces substances-là. D'ailleurs, le gouvernement chinois, quand il a appris ça, il a réagi. Il a stoppé, et le gouvernement sud-coréen aussi.
Ils ont stoppé les importations de poissons japonais.
C'est ça. Alors bon, ça a duré quelques mois.
Il y a trop d'enjeux.
Il y a beaucoup trop d'enjeux. Et le fait aussi parce que la Chine est devenue le premier contributeur de produits halieutiques au Japon. La pêche japonaise est en régression totale. Hein.
Oui.
C'est la Chine qui est devant. Derrière, il y a la Corée du Sud, la Russie, etc.
Tout à fait.
Donc, tous des fournisseurs du Japon. Donc, au bout d'un moment, on proteste et puis on oublie un peu.
C'est compliqué. Alors, Trump a été... Tu as un chapitre sur Trump et le Japon. Trump a été reçu avec... c'est même pas le tapis rouge, c'est le tapis rouge karma. au Japon. Qu'est-ce qu'on peut conclure de l'attitude? On nous a bassiné sur le fait qu'il y ait eu des sièges à l'extrême droite japonaise. Ils ont eu 3 sièges, comme tu le disais en aparté avant qu'on commence cette émission. Qu'est-ce qu'on peut conclure de l'attitude de Trump? Et on a peu parlé de l'attitude des Américains dans cette affaire nucléaire du Japon. Parce que les Américains, ça nous met, si j'ose dire, le monde entier dans...
Ah ben, ils ont soutenu le programme électronucléaire japonais, clairement. Les entreprises américaines, soit qui fournissent l'uranium, soit qui ont fourni la technique pour les centrales, General Electric et compagnie, ils étaient à fond là-dedans. Donc, il y a des intérêts économiques immédiats, j'allais dire. Et puis après, il y a la dimension géopolitique, géostratégique, comme on dit, du parapluie nucléaire américain pour le Japon. Donc, le traité signé en 1960. Et là, c'est difficile de savoir jusqu'où ça va aller, comment ça va se goupiller, parce que Trump, bon, rodomontade, menace sur les taxes douanières, etc. Mais tout ça se négocie.
Oui.
Au final, on le voit bien, ce qui s'est passé entre Trump et Xi Jinping, et c'est pareil pour le Japon.
Tout à fait.
Le problème, c'est comme Trump veut faire partager la note de la présence des bases américaines au Japon, qui coûte cher, mais que paye déjà le gouvernement japonais, l'État japonais, donc, c'est-à-dire le contribuable japonais, même si une partie du peuple japonais proteste contre la présence de ces bases-là, notamment en Okinawa. Trump, il est gourmand, il en veut plus. Il faut que le Japon endosse, paye davantage.
Oui.
Donc du coup, la pression, ce qui fait que officiellement, le Japon ne veut pas dépasser 1% de son PNB, son PIB de dépenses militaires, là, veut passer à 2%. Bah, c'est un peu ce qui se passe aussi en France, en Europe. Hein, toute cette hystérie militariste, belliciste, de ces 20 ans de guerre qui nous préparent le pire.
Oui.
Donc, il y a pression de Trump sur le Japon. C'est en train de marcher parce que, par ailleurs, effectivement, les dirigeants japonais veulent se réarmer la nation, des choses comme ça, et donc potentiellement avoir la bombe. Mais... est-ce que Trump voudrait vraiment que le Japon se dote de l'arme atomique?
Ça reste à prouver.
Ça reste à prouver. Pardon. Parce qu'effectivement, ça donnerait une marge de manœuvre au Japon, et en particulier à la droite, à l'extrême droite japonaise, qui s'émanciperait des États-Unis quelque part, l'allié du jour, mais l'ancien ennemi de la guerre. Hein.
Oui. Alors, le Japon est très important. Et ça, tu le démontres bien dans ton ouvrage. Tout ce qui se passe au Japon nous concerne. Le prix Nobel de la paix de l'année dernière a redonné du souffle aux antinucléaires qui, vraiment au Japon, ont beaucoup de mérite. Bon, ils ont du mérite dans le monde entier, mais au Japon, franchement, vu tout ce qu'on a démontré dans cette émission, ils ont encore plus de mérite. Et tu démontres dans ton livre qu'il y a une hausse de l'abstention, elle atteint 50% dans les élections législatives. Ça veut dire que vraiment le camp antinucléaire gagne du terrain.
Alors plus précisément, on va dire que la défiance vis-à-vis du politique étatique est de plus en plus forte au Japon, comme dans d'autres pays, comme la France, mais que malgré tout, ceux qui croient encore dans l'illusion électorale votent dans un sens qui ne plaît pas aux dirigeants, en particulier dans les dernières élections, donc les sénatoriales de cet été et les législatives de l'automne il y a un an, montrent qu'en réalité, le fait majeur, c'est pas tant la progression d'un groupuscule d'extrême droite qui est à noter, comme l'ont mis en avant les médias occidentaux, ce que tu disais tout à l'heure.
Oui.
Non, le fait majeur, c'est que les partis qui sont opposés à la révision de l'article 9 de la Constitution, donc qui gardent une ligne, on va dire, pacifiste, hein, pour faire simple, ce sont ces partis-là qui sont arrivés en tête.
Oui.
Et c'est le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, qui a essuyé
deux
défaites successives, mais qui est quand même toujours au pouvoir suite à des alliances complexes.
Mais ça peut tomber à tout moment.
Ça peut tomber à tout moment. Hein.
Et ce camp-là va gagner, je pense.
Lequel ?
Le camp des pacifistes. Ils sont dans le sens de l'histoire. Allez, je crois au sens.
On peut l'espérer. En tous les cas, là, les médias, même en France, veulent pas voir cet aspect-là parce que ils s'embêtent tout le monde, quoi.
Et ce qui se passe au Japon se passera dans le monde entier. Et ce camp-là va gagner. Et ça, j'en suis persuadée. Et quelque part, tu les accompagnes avec ton ouvrage. Je rappelle le titre de Hiroshima à Fukushima, guerre nucléaire et politique au Japon, dans la collection Esprit Critique, aux Presses universitaires de Lyon. Alors, il est disponible à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Et vraiment, c'est un ouvrage majeur que je vous recommande. Et à un prix modique, 18 euros. Pour une somme de travail aussi colossale, c'est vraiment un prix modique. Ça t'a pris combien de temps, Philippe, à peu près ? Combien d'années, à peu près, pour travailler là-dessus ? Toute ta vie ?
Pas complètement. Disons que la rédaction finale m'a pris quelques semaines, parce que j'avais déjà emmagasiné beaucoup de choses avant. J'avais écrit des articles, et puis tout ce que j'avais accumulé. Là, j'ai voulu réunir Hiroshima et Fukushima.
Et c'est brillamment réussi. Merci, Philippe.
Merci.
Merci à Frédéric pour la technique. Je vous remercie de votre écoute tous les 15 jours. Je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité. Merci.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi, je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nur. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. Thank you.
merci à toute l'équipe de La Rage de Danse sur Radio Libertaire. Dans un instant, dans un peu plus de 5 minutes, nous avons rendez-vous avec Radio Espéranto, toute l'équipe de Radio Espéranto sur Radio Libertaire 89.4 et en DAB+.
Je me souviens des femmes, enfin, je veux dire, des femmes normales. Je me souviens des femmes au cabaret et à la télé.
Je me souviens des femmes de couverture des magazines.
Elles sont tellement belles.
Je me souviens des femmes des grands défilés des modes à Londres, à Paris, à Amsterdam, Santiago.
Des blondes ou des brunes magnifiques.
Je me souviens des femmes des grandes affiches de cinéma. Je me souviens des femmes
des marines
sur ses défauts.
Les femmes
pleines de lumières et des paillettes.
C'est curieux. Il ne m'enlevait pas les souvenirs de ces femmes qui, en 1973, chantaient dans les prisons du Chili.
Me gusta caminar sola en la calle cuando la noche cae sobre las casas y entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada. Y entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada. De pronto me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia que llega suavemente a los rosales. ¿Cómo llegaste tú al alma mía? Que llega suavemente a los rosales. ¿Cómo llegaste tú al alma mía? No sé por qué será que tengo pena. Será la lenta muerte del otoño. Me basta recordarte así como eres. Si el otoño se duerme, no se muere. Muchacha en esta calle como un árbol, mi canto se desangra en tu recuerdo. Me gusta caminar cuando la calle se cansa del rumor de todo el día y amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío y amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío. Quisiera estar contigo este momento, con el tiempo aferrado entre mis manos, y entregarte mis sueños y mis ansias, y que beses mi boca hasta morir, y entregarte mis sueños y mis ansias. Y que beses mi boca hasta morir. No sé por qué será que tengo pena. Será la lenta muerte del otoño. Me basta recordarte así como eres. Si el otoño se duerme, no se muere. Muchacha en esta calle como un árbol, mi canto se desangra en tu.
Juste un souvenir.
que régnait le grand Pan. Les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants. Au nez rouge, à la rouge trogne, dès qu'un homme vidait les cruchons.
Flor de l'âme, intervinter ni esperant. La cin venuce mi, aura grec, aura franz, ca e cantu cun mi. Persa ma voce, e diranta del cor, esperanto.
Esperanto. Chocolate. Do. Do. Dento. E. Elefanto. Fo. Fo. Fisso. Go. Go. Chitarra.
Estas tre facile.
Jo. Jo. Gira. Ho. Ho. Hipopotamo. Ho. Ho. Cameleono. I. I. Iglo. Yo. Yo.
Saluton al aŭskultantoj, do vi aŭskultas Radio Esperanto sur la frekvenco de Libereca Radio 89,3 megahertzoj. Telefonnumero 01-23-71-89-20. Libereca Radio, la voĉo sen Dio nek mastro nek reklamoj. Donc vous êtes à l'écoute de Radio Esperanto sur la fréquence de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. La fréquence est 89,4 MHz et on peut l'écouter aussi sur internet radio-libertaire.org et avec les DAB+. C'est comme ça que ça s'appelle.
C'est ça, DAB+.
Le DAB+, oui, oui. Voilà. Oui, oui.
Et donc le téléphone, mais de préférence, quand tout à l'heure qu'on va mettre une pause musicale, c'est le 01 43 71 89 40. Et donc le siège de la radio, c'est au 145 rue Amelot, c'est la librairie du Monde Libertaire. Oui. La sidéo est à Sengvardegvin Strato Amelot, est à la librairie, est à la sidéo de Nia Radio, qui encore de la. Est à la librairie de la librairie de Sanamondo. Tien regule okazas diversaj eventoj kaj nuntempe estas iu eksponaĵo les lieux du grand final, la lokoj, la ejoj de granda finalo. Ĝi okazas jam nuntempe ekde mardo la dua ĝis merkredo sepa de januaro, dum kvazaŭ unu monato. Do mi estas iomete longa presentado, estas bildoi kiu pripensigas min en la cerco parizo estas iu fervo nomata eta zono, kaj tiu bildoi mine ŝajnas similas al mi kiel